Bien. Alors, moi, il y a une thématique qui m'a travaillé là pendant des mois, une thématique qui n'est pas très populaire, mais elle m'a travaillé, et c'est la thématique de l'esclavage, être esclave. Et ça m'a vraiment travaillé. Et si vous prenez des débuts de plusieurs lettres dans le Nouveau Testament, vous avez par exemple dans Jacques 1, Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, dans Romains 1, Paul serviteur de Jésus-Christ, et ben serviteur, c'est-à-dire littéralement esclave. En grec, doulos. Doulos. Et il y a un théologien qui explique que à l'époque du Nouveau Testament, donc ça voulait dire esclave, mais dans le sens d'un esclave qui assure un service obligatoire et permanent. Et ça, c'était dans la culture grecque de l'époque. Donc un esclave, donc un serviteur, c'est quelqu'un qui assure un service obligatoire et permanent dans la culture grecque. Et c'est clair que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont sous une forme d'esclavage. Et donc, on le sait tous qu'il y a plusieurs formes d'esclavage dans le monde. On est esclave de la chair, esclave d'addiction, esclave de nos frustrations, esclave de l'idolâtrie, esclave... Il y a aussi des choses plus subtiles. L'alcoolisme du travail, par exemple, avec nos fameuses to-do list. Et moi, parfois, il faut que je me dise à moi-même, attention, tout doux, avec ta liste, tout doux, tout doux, tout doux. Parfois, c'est subtil. Donc, je ne vais pas entrer là-dedans, vous le savez. Mais même aussi pour nous, chrétiens nés de nouveau, eh ben, il n'y a pas de ce que j'appelle no man's land. On est aussi esclave. On y est aussi esclave. On est esclave de Dieu. Et je vais expliquer aussi ce que ça comporte aussi comme thématique. Mon objectif, c'est pas de vous faire peur. Mais c'est clair que dans le mot doulos, quand on dit doulos, tout de suite, nous, on pense à douleur, n'est-ce pas? C'est le premier mot qui nous vient à l'esprit. Et c'est clair que la douleur, c'est quelque chose qui fait partie d'une marche chrétienne. Si, quelque part, on n'a jamais eu de douleur, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Parce que lorsque on se positionne pour Christ, eh bien, il y a un combat qui va naître, et entre la chair et l'esprit, donc combat intérieur, donc parfois aussi douleur intérieure. Et moi, j'ai déjà bien vécu parfois la chair qui m'a bien fait mal, qui dit, et parfois ça tire, ça fait mal. Et parfois aussi des douleurs, des souffrances extérieures. Rejet, persécution, ainsi de suite. Et c'est clair que, regardez, un passage aussi qui illustre cela. C'est Pierre qui s'adresse donc à des chrétiens. « Bien-aimés, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc, on est dans une guerre et parfois, voilà, on se prend des coups. Mais on a bien sûr la victoire en Jésus-Christ. Donc, je ne dis pas par là qu'il faut aspirer à la douleur. Parce que certains disent que quelque part on peut y trouver une vertu morale, vous savez, c'est ce qu'on appelle le dolorisme, d'accord? C'est quand on attribue une quelque chose de positif à la douleur. Mais je pense que d'un autre côté aussi, il ne faut pas la fuir, il faut parfois l'affronter, la confronter, et ça on n'aime pas forcément, d'accord? Sinon on tombe dans l'autre travers qui s'appelle l'hédonisme, c'est-à-dire ben voilà, c'est d'un côté, vous avez la souffrance, dolorisme, de l'autre côté, la jouissance, l'hédonisme. Hein, et donc, il faut éviter l'un des deux excès. La question, elle est plutôt... Je la formulais de la manière suivante. La question à se poser, c'est de qui ou de quoi es-tu esclave? Parce qu'on l'est tous. On l'est tous. Et c'est une pensée que j'ai eue, que je vous soumets. Moi, je crois que... Il n'existe aucun système de pensée dans nos têtes qui est démocratique. On a tous un système de pensée, quelque part, qui nous impose la marche. Pour moi, il n'y a pas de démocratie dans nos pensées. Il y a des mécanismes qui sont là et qui nous imposent un certain style de vie. Alors, quand on parle d'esclave, on parle bien sûr de maître. Et on a bien sûr, comme image, surtout si on parle d'esclave au sens classique du terme, d'un maître dur qui donne des coups de fouet, un maître que l'esclave craint, de qui il a peur. Et bien sûr, je fais le lien avec notre Dieu. Et quand on dit esclave de Dieu, oui, il est question de crainte, mais comme vous le savez tous, il ne s'agit pas d'une angoisse et d'une peur des coups de bâton, mais c'est vraiment d'un respect profond du Seigneur et de sa parole. Et est-ce que tu pourrais projeter juste l'image du lion? Et voilà, on va vous projeter l'image du lion, mais voilà, ça va un peu illustrer ce que je vais vous dire. Et cette crainte du Seigneur, cette crainte de Dieu, ce respect profond, je crois que c'est important aussi de redécouvrir cela, parce que on peut vite tomber aussi dans la familiarité avec Dieu. Moi-même, j'ai déjà entendu des chrétiens mûrs hein, qui ont dit des choses qui me paraissait vraiment très très familière vis-à-vis de Dieu. Et on a bien sûr un des extrêmes de familiarité, c'est ce qu'on appelle l'hypergrâce. Hein, se dire, Dieu me pardonne tout, donc j'en profite. Et on trouvait ça déjà à l'époque de l'Église primitive. Dans Jude, par exemple, il est dit, « Oui, c'est glissé par vie où certains hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul maître. » On veut pas de maître, on veut pas être esclave, et voilà, on profite de la grâce, donc l'hypergrâce, vous connaissez. Par contre, il y a l'autre extrême, c'est l'hypercrainte. C'est-à-dire, et ça j'ai déjà vu cela aussi, des personnes, et peut-être que nous-mêmes on a vécu cela, c'est que on a tellement peur, on a une peur malsaine de Dieu, qu'on n'ose pas faire des choses, et ensuite on a tout de suite mauvaise conscience, on va demander aux gens si on ne les a pas offensés, et on n'ose rien faire. Ça existe aussi. La crainte de Dieu. Dans Philippiens 2, il est dit, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Dans le psaume 2, il est dit, « Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. » Et il dit aussi, donc j'ai fait une petite recherche par rapport à la crainte de Dieu, et là j'ai trouvé aussi un verset qui m'a fait réfléchir. Dans Éphésiens 5, il est dit, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Waouh ! « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Donc ça veut dire que c'est une chose sérieuse à faire. Et moi, c'est ce que j'aime ici, dans cette assemblée, c'est que, quelque part, tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut s'exprimer. Et dernièrement, j'ai relu 1 Corinthiens 14, vous savez, c'est Paul qui donne des consignes, il dit, lorsque vous assemblez les uns ou les autres, si quelqu'un a une instruction, une révélation, une interprétation, il y a cette place, il y a cette plateforme pour s'exprimer. Et, mais bien sûr avec des sphères de responsabilité, mais ce que j'aime bien c'est cette notion aussi, voilà, de soumission les uns aux autres. Il n'y a pas une personne, le one man show qui dit, les autres qui sont spectateurs, auditeurs, mais chacun peut partager ce qu'il reçoit du Seigneur, et c'est bien sûr examiné. Et une chose qui m'a touché aussi, c'est quand on a travaillé sur le chantier du secteur pastoral, il y a un point qui a été abordé aussi. Donc, il est important aussi qu'on s'intéresse à nos frères et sœurs. Et c'est Luc qui a mentionné ça, il a dit, mais vous savez, quand on sera amené à avoir des entretiens avec eux, il faut aussi s'attendre non seulement à se donner à eux, à les écouter, à les conseiller, mais aussi à recevoir d'eux. C'est ça aussi la soumission, les uns aux autres, s'intéresser à chacun et recevoir de chacun. Et c'est ce qui me plaît beaucoup ici, dans notre église. Et on l'a encore vécu ce matin, n'est-ce pas? C'était quand même très fort aussi. Là aussi il est dit, et par rapport à ça, mais rendez-vous dans Galates, rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Donc il y a dans cette interaction entre membres, il y a quelque chose de sérieux aussi. Faisons-le dans la crainte de Christ. Donc dernièrement, on était, vous savez, on a participé à ce à cette conférence avec Catch the Fire, donc qui avait vécu ce réveil à Toronto. Et il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est lorsqu'on a discuté aussi avec l'un des responsables qui organisait le réveil dans les années 90, et il a dit la chose suivante: une clé de ce réveil, c'était les équipes. C'était les équipes de prière qui étaient là. C'était pas une personne, c'était des équipes. Et moi, ça me conforte aussi dans cette dynamique qu'on veut insuffler à l'église, c'est d'avoir différentes équipes. Équipe pastorale, équipe d'accueil, et ainsi de suite. Parce qu'il y a une telle richesse. Donc, soumettons-nous les uns aux autres et servons-nous les uns les autres. Je me rappelle juste aussi d'une interaction, juste pour vous donner un exemple. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais je vais vous raconter encore une fois, parce que ça m'a tellement frappé. C'est qu'un jour, voilà, on était dans la louange, moi j'avais les yeux fermés, et je voyais un aigle qui volait dans les airs, et je le suivais. Et j'étais là, très calme. Et après la louange, il y a Anne qui vient et qui me dit: écoute, je sens que le Seigneur veut te donner un regard d'aigle. Et elle m'explique ce que ça veut dire. Donc confirmation de ce que j'ai reçu. Et après il y a Jocelyne qui est venue. Elle me dit: oui, est-ce que Anne, elle te partage, tu l'as reçu dans la louange? Alors qu'elle ne pouvait absolument pas savoir ça. Et ça m'a vraiment frappé. Autre exemple aussi qui montre cette richesse aussi parmi nous et qui nous confirme aussi parfois dans nos décisions personnelles. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait depuis des mois que je travaille sur cette thématique de l'esclavage. Et le 28 avril, j'étais là à la projection, et il y a Alice qui vient et qui cite le psaume, qui lit le psaume 34. Et là, qu'est-ce qu'on y trouve dans le psaume 34? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Après on peut se dire, bah oui, bon, la crainte de l'Éternel, ok, bah, elle a choisi ça comme psaume, et c'est vrai que c'était un des points forts, mais bon, pourquoi pas. Mais après, Alana prend le relais. Et son articulation, je vais en dire un peu plus tard, son articulation correspondait exactement aux deux points de mon message. Donc l'articulation entre Alice et Alana, c'était les deux points forts de mon message. J'étais là, je dis, waouh, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Philippiens 2:21, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Ça aussi, ça m'a touché quand il est question de la crainte de Christ, c'est aussi du respect de sa personne, du respect de sa volonté. Et là, j'ai pensé à ce que j'ai entendu à Seth, lorsque cet apôtre Joseph Matera a répondu à une question, quelqu'un lui a posé: que pensez-vous de l'évangile de la prospérité? Et lui, il a dit la chose suivante, il a dit qu'il y a des choses qui sont justes, parce que Dieu veut que nous ayons la vie en abondance. Il y a des choses qui sont justes. Il dit, mais le problème de l'évangile de prospérité, c'est la perspective des personnes qui sont dedans et qui veulent être bénies. Il dit que c'est un évangile immature et égocentrique. Et donc, on cherche uniquement nos intérêts, on cherche notre bénédiction. Et ça me fait penser à la parabole de Luc 15, au fils cadet qui dit au père: donne-moi mon héritage. D'accord? Et si on pousse bien sûr l'évangile de prospérité jusqu'à sa forme la plus extrême, on retombe dans l'hédonisme. Je suis là à me créer mon paradis terrestre et à me préoccuper de ce que Dieu va me donner, mais pas me préoccuper de ce que Dieu, de qui Dieu est, et de me préoccuper de cet objectif qui est de vouloir lui ressembler et de me préoccuper de ses intérêts. Ça, c'est la forme extrême. Donc c'est aussi une forme d'immaturité, de familiarité, et qui est contraire à la crainte de Dieu. Après, il y a l'excès inverse, que je trouve qui nous guette un peu plus en France, c'est l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, et qui est aussi lié à l'esprit d'orphelin, c'est la peur de manquer. Comme on a peur de manquer, ben, on va pas donner non plus. Et il y a ce verset qui dit, dans 1 Timothée, Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose de juste dans l'évangile de la prospérité. Dieu veut nous donner des choses en abondance pour que nous en profitions. C'est dit tel quel. Mais après, recommande-leur, c'est-à-dire aux personnes qui sont riches, de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, d'avoir de la générosité. Et c'est ça parfois ce qui manque à ce mouvement. Donc c'est aussi une autre forme de familiarité. Donc la crainte de l'Éternel. Psaume 111, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Ça m'a frappé. C'est encore Claude Payan qui disait récemment qu'il est temps qu'on revienne à une saine crainte de l'Éternel. Ceux qui l'observent ont une raison saine. C'est intéressant ce côté, ce lien avec notre raison. Et autre passage aussi qui montre à quel point c'est important de craindre, dans une perspective biblique, Dieu. Hébreux 12, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est un feu dévorant. Et moi je remercie le Seigneur parce qu'il en est ainsi. Qui a cet aspect de la crainte de Dieu, que Dieu c'est pas n'importe qui, c'est le maître de l'univers, parce qu'on l'a peut-être tous vécu, mais quand la figure d'autorité elle n'inspire pas une saine crainte, donc un respect, pas une angoisse, d'accord, mais un respect profond, c'est la porte ouverte à toutes les insécurités. Et vous voyez ça parfois aussi dans des salles de classe, vous avez des enseignants qui sont très 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 gentils, ils ont un cœur énorme, mais ils n'arrivent pas à exercer la discipline. Résultat des courses, donc il y a du bazar, donc vous avez une insécurité extérieure, et ensuite aussi une insécurité intérieur dans le cœur des jeunes, et ce qui amène de la souffrance. Et donc, n'oublions pas, et là aussi je remercie le Seigneur, que le paradis, c'est un royaume, et c'est pas une démocratie. Et par rapport aussi à ce côté maître de Dieu, regardez aussi comment Dieu réagit par rapport au non-pardon. Et ça aussi, ça m'a nouveau frappé. Comment Dieu est un maître intraitable avec le non-pardon, intraitable. Et il est dit à un moment donné, c'est ainsi donc, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. On pourrait dire que c'est dur, mais moi je me dis que c'est un signe de la bonté de Dieu. Parce que Dieu ne veut aucun poison, aucune racine d'amertume dans nos cœurs. Je suis tombé cette citation que je trouvais intéressante. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était toi. Et justement, Dieu, il veut pas qu'on soit prisonnier. Et là, on voit, waouh, ce côté-là de Dieu intraitable avec le non-pardon. Jacques aussi dit, soumettez-vous à Dieu, il le dit dans son épître, et soumettez-vous, c'est une expression grecque qui fait partie du domaine militaire. Ça veut dire rangez-vous sous. On utilise ça pour les soldats qui devaient se ranger sous les ordres du commandant. Donc en même temps, si c'est rassurant d'avoir un tel Dieu, qui est maître de l'univers. Vous savez, le livre des Actes nous dit que les desseins de Dieu sont arrêtés. Et ça, c'est ce qui me plaît. Les desseins de Dieu sont arrêtés et donc rien ne l'arrêtera. Quel que soit ce qui se passe actuellement, les desseins de Dieu sont arrêtés. Rien ne l'arrêtera. Donc, craindre ou ne pas craindre, telle est la question. Et donc, dans Luc 12, vous avez ces deux aspects-là. Après, on pourrait dire que c'est a priori contradictoire, mais pas du tout. Luc 12, 31, pardon. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. C'est lui que vous devez craindre. Quelques versets plus loin, Jésus dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et là, on trouve exactement cet équilibre dont on a besoin. Ne pas être familier avec le Seigneur. Après, on peut se dire facilement, mais non, je respecte Dieu. Mais je me dis moi-même parfois, dans ce que je pense ou dans les décisions que je prends au quotidien, est-ce que je suis toujours là à me dire, Seigneur Jésus, que je cherche tes intérêts, ou je ne cherche pas les miens ou ceux de ma famille? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous sont données par-dessus. Il y a des priorités. Donc, est-ce que parfois on n'est pas dans cette forme de familiarité? Donc, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on est esclave de Dieu. Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que, je vous avais dit que le doulos, dans la culture grecque, c'est l'image d'un esclave qui assure un service obligatoire et permanent. Ça donne pas envie. Un service obligatoire et permanent, ça me donne pas du tout envie. Mais dans la dimension hébraïque, ce terme serviteur veut dire rendre un service volontaire à un maître qu'on respecte et qu'on aime. Alors moi, je préfère la définition hébraïque. Et c'est vrai que vous avez un autre terme employé grec, un terme grec employé pour servir, c'est latreo. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui nous attend pour l'éternité. Dans Apocalypse 22, vous avez le passage suivant, le trône de... Donc, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. C'est le terme grec latreo, et latreo... Et c'est pour ça que vous avez plusieurs traductions dans vos Bibles françaises. Ça veut dire à la fois servir et à la fois rendre un culte et adorer. C'est-à-dire un service volontaire. L'adoration à travers le service. Et ça, c'est ce qui nous attend pour l'éternité. Oui, on sera serviteur pour l'éternité, mais serviteur de cœur. Alors... vous savez certainement que j'ai fait des études d'allemand à Strasbourg, notamment aussi de littérature allemande. Et je vais juste vous résumer en une minute, on va dire le point culminant de la littérature allemande, en une minute, je vous le promets. Et parce que ça m'a frappé. Vous savez, au XVIIIe siècle, donc le siècle des Lumières, en Allemagne c'était un peu plus soft qu'en France. Mais le problème, c'est que on misait tout sur l'homme, d'accord ? Les Allemands étaient quand même encore ouverts à la foi, mais ils sont quand même bien détournés aussi de la révélation pour se tourner vers la raison. Et vous avez un premier mouvement de la littérature allemande, ça s'appelle Aufklärung, et dans ce mouvement-là, les gens mettaient l'accent sur le devoir moral. Le devoir moral. Utilise ta raison pour exercer un devoir moral envers les autres. Mais le problème, c'est qu'ensuite les gens, ils ont basculé dans ce qu'on appelle le rigorisme. On peut aussi utiliser le terme légalisme. C'est-à-dire que ils étaient tellement enfermés dans leur principe, il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de vie. Et ensuite, vous savez, à l'époque, c'était les écrivains, c'était quelque part les représentants du monde des idées du siècle, quoi. Et ensuite, ils se sont dit, non, ça va pas, il faut redécouvrir les sentiments, il faut redécouvrir les passions humaines, il n'y a pas de vie, il faut de la vie. Et on a basculé dans le mouvement qui s'appelle Sturm und Drang. Et là, c'était, voilà, les passions avant tout, les passions amoureuses, ainsi de suite. Et bien sûr, là, c'est parti dans les tragédies, c'est parti dans tous les sens. Et ensuite, ils se sont dit, non, ça va pas, les grands penseurs allemands, Goethe en premier, qui était bien sûr dans la franc-maçonnerie. Et ensuite, on dit non, ça va pas, on est trop dans l'extrême, trop dans l'un ou l'autre extrême, et il faut qu'on trouve quelque part un juste milieu, et c'est ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils ont introduit ce qu'on appelle la Weimar classique, le classicisme. Bon, ils s'inspiraient aussi des Grecs, et ils sont parvenus à la conclusion suivante. Ils se sont dit, mais oui, que veut l'être humain? Il veut la liberté. Comment est-ce qu'il peut avoir la liberté? C'est en voulant faire ce qu'il doit faire. Ça, c'était leur conclusion. Je suis libre quand je veux faire ce que je dois faire. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'était donc fin du XVIIIe siècle. J'ai envie de dire, est-ce qu'ils ont mis tout ce temps à découvrir ce qui était déjà dans les Écritures? Et la question s'y a se posé. Déjà là, on voit aussi que que l'homme est créé à l'image de Dieu. Vous voyez, parce qu'il y a des choses quand même qu'il peut découvrir par lui-même quelque part, mais qui sont aussi teintées un peu de vérité. Mais maintenant, la question à se poser, c'est donc ça, c'était l'idéal, voilà, le point culminant de la littérature allemande, dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on est arrivé à ce point-là, où l'homme est entré dans cette liberté morale, voilà, où il veut faire ce qu'il doit faire? En ce moment, on parle d'ensauvagement de la société. Donc, on n'y est pas trop, ni non plus pas en Allemagne. Et là, je suis tombé sur ce verset qui illustre un peu cela. Il est dit, dans 2 Pierre, « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. » Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu peux prendre la plus belle forme de l'humanisme, mais tant que tu ne t'es pas soumis ou rangé sous les ordres de Dieu, eh ben, tu restes esclave de ta condition humaine, avec tous les travers qui l'accompagnent. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es plus que vainqueur ou tu es plus que perdant. Il n'y a pas de juste milieu. Donc je vous disais que la Bible avait déjà dit tout ça. Il est dit par exemple dans Romains 6, il est dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est l'un ou l'autre. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit, l'obéissance de cœur. Ayant été affranchis du péché, je continue de lire ce passage, chapitre 6, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, on est esclaves et c'est une bonne nouvelle. C'est déjà une première conclusion que je voudrais tirer de tout ce que je viens de dire. Maintenant, deuxièmement, la figure du maître. On parle d'esclave, on parle du maître. Et Pierre dit qu'il y a des maîtres au caractère difficile. Et je pense qu'on a peut-être tous vécu ça, ou peut-être certains vivent ça. Des maîtres au caractère difficile. Mais nous, et je remercie le Seigneur, est-ce qu'on a un maître au caractère difficile? On a un maître qui est miséricordieux. Et d'ailleurs, l'esclave, quel est, dans le sens péjoratif du terme à l'époque, quelle était sa motivation? Ben, c'était survivre, peut-être payer des dettes, régler des dettes. Mais nous, quelle doit être notre motivation? Et là, je suis tombé sur Romains 12, où il est dit, « Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ça doit être notre moteur dans notre service pour Dieu, les compassions de Dieu. Parce que Dieu est tellement compatissant, offrons-nous pleinement à lui. La compassion de Dieu, c'est le moteur de notre service. Là, je trouve ça magnifique. Donc, quelques éléments aussi par rapport au maître que nous avons. Et c'est tellement digne, il est tellement digne d'adoration. On a un maître qui a été notre serviteur, n'est-ce pas? Ça aussi, à l'époque, ils ne vivaient pas ça, les esclaves, ils n'avaient pas de maître qui les avait servis ou qui les servait. Et un maître qui nous sert encore actuellement. On sait que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Et dans le cadre aussi d'une parabole, là aussi ça m'a frappé. Écoutez bien ce passage. Luc 12, je sais que je cite beaucoup la parole, mais ça me semble vraiment important. « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. » Écoutez bien, je vous le dis en vérité, il, c'est-à-dire le maître, se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. On a un maître qui sera là et qui va nous servir. On a bien sûr un maître qui est un frère, qui est un ami, un maître qui nous a racheté du péché, de l'esclavage, de la peur et de la mort, pour nous mener à la liberté. Je parlais de la liberté avant aussi. Et c'est là un peu, j'aime un peu ces paradoxes, mais plus tu es esclave de Dieu, plus tu es libre, n'est-ce pas? C'est le Fils qui nous affranchit. Et plus on respecte la loi de Dieu, plus on est esclave de la loi, plus on est libre. Parce que la loi, je vous rappelle qu'elle est appelée aussi la loi de la liberté. Est-ce que tu peux juste agrandir l'image? Parce que voilà, l'image n'était pas complète. C'est voilà, ça, c'est l'image de notre Dieu. À la fois lion qui inspire une saine crainte, mais l'agneau aussi qui inspire la douceur, l'amour. Ça, c'était aussi le message d'Elisabeth, l'amour, la tendresse. Les deux à la fois, pas l'un sans l'autre. Les deux à la fois. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais lorsqu'on songe aux esclaves à l'époque, on songe aussi à des maîtres, ça peut être aussi des employeurs de nos jours, ultra exigeants, pinailleurs, lourds, qui sont aussi toujours mal disposés et quelque part qui vous poussent un peu à un perfectionnisme malsain et qui parfois vous donnent des conseils alors qu'eux-mêmes ne sont pas forcément compétents pour le faire. Et ça fait mal. Dieu est un maître qui est non seulement digne de perfection, mais qui attend la perfection. Ouais. Ça vous choque peut-être, mais je vais vous prouver cela. Dans Matthieu 5, il est dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Soyez parfaits. Et si vous prenez l'épître aux Hébreux, moi j'aurais envie d'appeler cette épître l'épître de la perfection, parce que on retrouve comme un fil rouge cette thématique de la perfection dans cette épître. Et il est dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? L'objectif, c'était la perfection. La perfection n'a pas été possible à travers ce sacerdoce. Qu'est-ce qu'il est dit un peu plus loin? Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, pardon, car la loi n'a rien amené à la perfection. Non. Donc, premier problème déjà, les souverains sacrificateurs. Là, on pense qu'il y en a eu à peu près 84. Les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas être parfait. Ça, c'était aussi un problème. Et donc, Dieu a envoyé son Fils pour qu'il prenne cette place du souverain sacrificateur parfait. Dieu ne pouvait pas se contenter d'un souverain sacrificateur imparfait. C'est pour ça qu'il est dit, dans l'Épître aux Hébreux, « La loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » Donc première chose, il fallait un souverain sacrificateur parfait. Et c'est le cas. Deuxième chose, le tabernacle. Le tabernacle aussi, un tabernacle humain, par définition ne peut pas être parfait. Christ, qu'est-ce qu'il a traversé? Un tabernacle qui est parfait, nous dit aussi l'Épître aux Hébreux. Donc, tabernacle parfait, sacrificateur parfait, comme Jésus-Christ est le Fils parfait, ben Dieu l'a aussi envoyé comme sacrifice parfait. Sacrifice parfait aussi. Et enfin, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que Christ nous a rendus parfaits. Et là, on peut souffler. Il nous a rendus parfaits. On est dans une culture où on pointe du doigt les imperfections, nos imperfections. Mais là, j'ai envie de dire que c'est une logique contraire du royaume. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et Colossiens le dit aussi d'une autre manière. Elle dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et c'est là on a ce mécanisme qui va à l'encontre du raisonnement humain. Dans le monde, on te dit, deviens ce que tu veux être. D'accord ? Et c'est pas étonnant, vous trouvez ça même dans ces sectes, style franc-maçonnerie, voilà, il y a divers degrés, il faut s'élever, deviens, et il faut progresser, ainsi de suite. Eh bien, le christianisme, c'est le contraire. C'est deviens ce que tu es déjà, en Christ. C'est-à-dire que, quelque part, c'est comme si tu avais déjà 20 sur 20, mais on recommence quand même à zéro. Tu as 20, son bulletin. Mais, c'est sûr, c'est acquis, mais on va quand même commencer 0, 1, 2, on va prendre les étapes ensemble. Donc quelque part, on doit travailler à notre perfectionnement, la Bible le dit clairement, c'est pour ça aussi qu'il y a les cinq ministères. Mais on est déjà devenu parfait en Christ. Donc en tant qu'esclave, en tant que serviteur, on est déjà parfait en Jésus-Christ. Et tu peux montrer l'autre image ? Il y a quelque chose qui m'a frappé lorsqu'on a rencontré j'ai encore quelques minutes un peu? D'accord, c'est bon, t'as pas l'affiche là qui commence à... D'accord, c'est bien. Ok. Dernièrement, on a rencontré un juif messianique, un pasteur d'une assemblée en Israël, et il nous a partagé la chose suivante. Il faisait du tourisme un peu à Strasbourg, et il était dans la cathédrale de Strasbourg. Et là, il y a des gens qui sont venus, alors je sais pas si c'était des Algériens ou des Syriens, j'ai retenu Syriens, et qui lui ont demandé des explications par rapport à la cathédrale et ainsi de suite. Donc déjà l'image, vous voyez, dans le contexte tendu actuel, voilà, un Syrien qui discute avec un Juif, qui dit, mais tu peux nous donner des explications par rapport à ce bâtiment? Et donc c'était Tony Sperandeo, et lui à un moment donné, il en a profité un peu pour parler de Dieu, et il a glissé à l'oreille du Syrien, il a dit, est-ce que tu voudrais connaître le nom secret de Dieu, son nom secret? Et quand il nous a raconté cette histoire, moi je m'attendais, vous voyez, peut-être un nom hébraïque, je dis voilà, quelque chose qui montre une facette de Dieu, et il lui a dit tout simplement, papa, papa. Et ça m'a vraiment touché. Donc notre maître qui est en même temps bien sûr notre père, notre maître qui est notre père, et c'est Jésus qui dit, enfin, Jean qui dit aussi dans Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivré nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça, c'est le programme qui nous attend pour l'éternité. Et essayez toujours d'avoir en tête ces maîtres cruels qui, quelque part, n'en avaient rien à faire de leur esclave, de leur état d'âme, rien du tout. Et là, le maître qu'on a. Un maître qui a mis l'esprit de son fils en nous, et cet esprit en nous qui crie « Abba, Père, Abba, Papa ». Un maître qui nous encourage, qui nous assiste, un maître qui même agit en nous. Un maître qui agit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Un maître, et là aussi ça m'a travaillé aussi ça, un maître qui travaille avec nous. Normalement le maître il n'en a rien à faire de son esclave, c'est tu travailles et moi je profite de la vie. C'est un maître qui travaille avec nous. La Bible dit que Dieu travaille avec nous, nous travaillons avec Dieu, 2 Corinthiens 6. Et Dieu aussi qui crée le vouloir et le faire en nous. Ça me travaille ça. Dieu qui crée le vouloir et le faire en nous. Et ça me fait réfléchir parce que j'ai l'impression que parfois, c'est peut-être pas votre cas, c'est peut-être le mien, on se dit, ah mais est-ce qu'on est dans la volonté de Dieu, ou on se dit, oh, on est peut-être loin, est-ce qu'on a bien fait? Mais je me dis, on est peut-être plus souvent dans la volonté de Dieu qu'on ne le croit. Plus souvent dans la volonté de Dieu qu'on ne le croit. Parce qu'il crée le vouloir aussi en nous. Il crée cela, et quelque part on en revient à ce qui a été dit avant. Tu es libre quand tu veux faire ce que tu dois faire. Tu as donné ta vie au Seigneur, tu dis, je veux que tu sois mon Seigneur. Mais Seigneur agit en toi, il crée le vouloir. Donc ça ne va pas à l'encontre de ta volonté. Je dis, merci Seigneur parce qu'il en est ainsi. Même si bien sûr il y a des choses parfois pénibles à faire dans la vie, mais Dieu crée le vouloir. Et ça c'est bon. Et le faire aussi. C'est-à-dire qu'il nous rend aussi aptes à le faire. Donc un maître qui pourvoit tout quelque part. C'est un tel maître que nous avons dans le ciel. Et non seulement un maître qui agit en nous, et ça j'ai l'impression que c'est le verset de l'année pour l'église Josué, mais un maître qui peut faire infiniment au-delà. Au-delà de ce qu'on pense ou de ce qu'on demande. Vous savez, il y a un théologien qui dit, et il dit que l'évangile, c'est pas se réaliser soi-même, mais c'est renoncer à soi-même. J'ose ne pas être tout à fait d'accord avec lui, partiellement d'accord, parce que moi je crois que lorsque tu renonces à toi-même, tu donnes ta vie au Seigneur, et bien quelque part, voilà, il crée le vouloir et le faire en toi, tu te réalises en lui. Plus tu renonces à toi, plus tu te réalises. Pour moi, c'est les deux côtés d'une pièce. Et c'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est les deux ensemble. Parce que, voilà, nous sommes son ouvrage. On a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Le terme grec, ouvrage, poémia, qui a donné plus tard poème. Je crois qu'Anne-Pierre Hélien en avait déjà parlé. Et je voudrais juste, en guise de conclusion, vous montrer un petit dessin animé qui dure 30 secondes. Et c'est assez intéressant parce que ce dessin animé, il illustre ce que Anne a partagé dimanche dernier. Et c'est au sujet de sa collaboration qu'on peut avoir avec notre maître. Nous, en tant qu'esclaves, doulos, c'est la Bible qui le dit, en tant que serviteur, la collaboration qu'on peut avoir avec lui. Alors, je sais pas, j'ai du mal toujours à revenir en arrière. Donc peut-être que, mais après elle se relancera. Donc on va voir, mémoire play. Ah, ça marche. Je traduirai après. Donc sinon, à la limite, tu me mets pause. Je vous donne juste le contexte. Peut-être que là, ça ira mieux après. C'est une histoire vraie. C'est un aristocrate qui s'est trouvé dans un hôtel et. À un moment donné, il a été vraiment agacé parce qu'il y a une petite fille qui jouait au piano et qui jouait terriblement mal. Vous voyez, bah, elle n'avait pas pris de cours et donc ça lui faisait mal. Et donc, je vous laisse découvrir si ça marche la suite. Ah, ça rame un peu. Sinon, il faut que je vous le raconte. Ok, mais sinon c'est pas grave. En tout cas, ben voilà, vous allez l'imaginer. On est dans un monde de l'image, mais il faut aussi qu'on développe notre imaginaire. Donc, il était là et il entendait cette fille, ça l'agaçait. Ensuite, il voit un monsieur qui s'approche. Vous connaissez peut-être cette histoire. Et ce monsieur, au lieu de reprendre cette fille, vraiment qui agaçait tout le monde là avec ses sons qui étaient horribles, il s'assoit à côté d'elle et il regarde ce qu'elle fait et il commence à jouer aussi. Il commence à jouer et peu à peu, il s'adapte aux notes horribles et maladroites. Et tout d'un coup, cet aristocrate, il dit mais. Il y avait comme une lumière dans la pièce, c'était des sons qui étaient magnifiques, qui émanaient de ce double jeu. Et il a appris plus tard que ce monsieur était le papa de la fille, et que ce monsieur s'appelait Alexander Borodine, un grand compositeur russe, qui au lieu de dire à sa fille « allez, allez », il s'est mis à côté d'elle. Et il a joué. Et donc quelque part, je trouve que c'est une belle image d'un Dieu qui compose avec nous, avec aussi nos faiblesses, mais qui... peut faire de magnifiques choses à travers nous qui le glorifient. Et pour moi, c'est l'image de l'instrument de musique. Et c'est assez intéressant ce que tu disais que dimanche dernier, tu as raconté que Björn Klein à la conférence, il joue au piano. Mais après, il dit mais c'est pas moi. Intéressant, c'est même pas moi qui joue, je faisais rien. Et cette image non seulement non personnelle, cette image non seulement personnelle de cette instrument de cet ouvrage, Éphésiens 2.10, que Dieu peut faire de nous quelque part, mais ensuite Dieu comme un chef d'orchestre qui place ses instruments, que vous êtes, que nous sommes, et qui, avec les dons de chacun, met en place un orchestre magnifique à sa gloire. Et c'est pour ça que moi je suis émerveillé aussi des différents dons, des complémentarités, des diversités que nous avons, parce qu'il y a quelque chose de beau qui émane de là. Et c'était ma conclusion, et un verset, un dernier verset qui s'adresse à l'église Josué, 1 Pierre 5,10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, doulos, vous perfectionnera lui-même, lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Amen. Amen.